Alors ce matin, j'ai une question à vous poser, c'est vivez-vous avec une vision? Beaucoup d'entre nous vivent avec des projets ou une vision pour le futur, et parfois même dès l'enfance. Un enfant, 4-5 ans, dira à ses parents, moi je voudrais être pompier plus tard, moi je voudrais être militaire, moi je voudrais être policier. Généralement pour les filles, c'est je serai maîtresse, je serai une maman. Et l'école arrive, l'orientation change, il y a les influences de ce monde. Et certains d'entre nous se sont peut-être aussi fixés des objectifs professionnels. D'autres, ça va être d'avoir une belle maison. D'autres, le projet d'aller habiter à l'étranger pour apprendre une langue. D'autres, d'ouvrir un orphelinat. Et nous commençons très jeunes, souvent, avec une vision dans le cœur. Pour ma part, c'est à l'âge de 4-5 ans, j'avais dit à mes parents, je serai pasteur plus tard. Et je suis allé à l'école, il y a eu les influences du monde, et puis après je me suis dit, non, je ne serai pas pasteur, je serai menuisier. Et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai décidé de mon métier. Alors j'ai tout fait pour que cela arrive. À l'âge de 16 ans, j'ai pu entreprendre une formation et j'ai été menuisier. Et pour la plupart, nous ferons tout pour que notre vision, notre projet se réalise. Certains échoueront, d'autres à cause, comme je l'ai dit, des circonstances de la vie changeront la vision. Ça peut être des catastrophes inattendues, les maladies, un divorce, que sais-je encore. Mais au contraire, peut-être aussi une promotion, être responsable d'un secteur. Et ce matin, vous êtes-vous déjà posé la question si Dieu avait une vision précise pour votre vie? J'imagine que oui. Croyez-vous que Dieu s'intéresse aux moindres détails de votre vie? Amen. Bien sûr, c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors avant tout, je souhaiterais avec vous définir la vision selon Dieu. La vision selon Dieu, c'est la capacité de voir quelque chose qui a été accompli d'avance. C'est la capacité de voir quelque chose qui a été accompli d'avance. Cela vient du ciel, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La vision, c'est quelque chose qui est en nous et que nous ne pouvons pas ignorer. C'est un aperçu glorieux de ce que Dieu veut de nous, de ce qu'il veut faire de nous, de la raison pour laquelle il nous a choisis, et de ce qu'il vous permettra d'accomplir dans l'avenir pour lui et son royaume. Je répète, la vision, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et que tu ne peux pas ignorer. C'est un aperçu glorieux de ce que Dieu veut faire de toi, de ce qu'il veut faire de toi, de la raison pour laquelle il t'a choisi et de ce qu'il te permettra d'accomplir dans l'avenir pour lui et son royaume. Le premier point que je vais aborder ce matin, ça va être la vision générale de Dieu pour votre vie. Le jour où nous avons accepté Jésus personnellement, nous avons reçu la vision de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Cette vision de Jésus a touché notre cœur, a chamboulé complètement notre vie. Les projets que nous avions avant notre conversion ont pris une toute autre tournure parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Nous avons pris conscience que Dieu avait une vision pour notre vie, des projets, et c'est ce que j'appelle la vision générale. Et cette vision, nous la trouvons bien sûr dans la parole de Dieu que nous allons ouvrir maintenant. Prenons ensemble dans le livre de Marc, au chapitre 16, un texte que tout le monde connaît, en tous les cas devrait connaître, Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc nous voyons dans ce texte que Dieu souhaite que tous soient sauvés. Dieu souhaite que tous soient sauvés. Ce texte, vous le connaissez tous, mais il est important que je le rappelle ce matin. Dieu souhaite que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est réel. Dieu souhaite que tu sois baptisé du Saint-Esprit ce matin, si tu ne l'es pas. Dieu souhaite aussi que tu imposes les mains aux malades. Ce n'est pas seulement donné au pasteur. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais tu peux, toi, où Dieu t'a placé, imposer les mains à un collègue. Tu peux imposer les mains à un voisin. Dieu souhaite que tu sois guéri. Dans 1 Pierre 2, 24, je lis pour vous, « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. » Oui, c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous avons été guéris. Amen. Que nous avons été guéris. C'est un fait, c'est déjà réalisé. 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » C'est réel ce matin et c'est pour nous. C'est donc la vision générale que Dieu a pour ta vie. Il y a bien d'autres promesses dans la parole de Dieu. Mais c'est ce que je voulais vous rappeler ce matin. Et au début de notre conversion, nous connaissons toutes ces choses. Nous avons appris que tout ce que Jésus a fait pour nous, cette vision que nous avons reçue à notre conversion, nous ne devons pas la négliger. Il faudra qu'elle soit toujours active. Mais bien sûr, il y en a un qui fera tout pour vous faire oublier cette vision, pour que vous délaissiez cette vision. Et son but sera que vous vous refroidissiez. Ce sera son but ultime. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 2, verset 4, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Là, c'était l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait perdu la vision à cause des épreuves endurées, à cause de l'acharnement du malin. L'église de Laodicée, Apocalypse 3, verset 16. « Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » L'église de Laodicée avait aussi perdu son premier amour. Il n'y avait plus de vision. Église de Séné, as-tu une vision? Et quelle est ta vision? Quand nous regardons la vie de Jésus, Jésus ne passait pas tout son temps dans les synagogues, dans les églises. La plupart du temps, il était dehors à prêcher, à annoncer le royaume. Quand il n'y a plus de vision, ça devient terrible. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de vision, plus de perspective. Quand tu n'as plus de vision, tu n'avances plus. La vie chrétienne ne se résume pas à venir le dimanche, à saluer ton frère, ta sœur, à chanter les louanges pour Dieu, à écouter la parole, à prier, à remercier Dieu pour cette semaine, à passer une agape avec tes frères et sœurs et rentrer chez toi. Et comme on dit, métro, boulot, dodo, la vie reprend son cours. Ce n'est pas ça. Dieu a prévu bien plus pour vous. Dieu a prévu bien plus que cela. Si tu n'as pas de vision, rien ne bougera dans ta vie. Ta vie sera fade, ta relation avec le Seigneur se refroidira. Et bien souvent, quand nous commençons notre vie chrétienne, notre pile est remplie. Et des épreuves, des réflexions, des circonstances qui arrivent dans nos vies font que la pile se décharge. La pile se décharge. Alors, mon deuxième point ce matin, ça va être la vision spécifique. Au début de la création, Dieu avait un plan parfait pour nous. Et plus précisément, au début de la création, Dieu avait un plan parfait pour Adam et Ève. Mais ils en ont décidé autrement. Ça leur a coûté la vision merveilleuse que Dieu avait pour eux. Ils en ont mangé le fruit. Et aujourd'hui encore, nous en payons les conséquences. Alors peut-être que vous êtes chrétien depuis des années et vous vous dites, ce frère, cette sœur, ils ont de la chance, Dieu les utilise. Mais ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que ce frère, cette sœur, ont une vision. Et toi, où en est ta vision? Quand nous regardons la parole de Dieu et nous voyons tous ces héros dans la Bible, ils avaient tous une vision que Dieu leur avait donnée. Il y a Noé, Joseph, Jérémie et bien d'autres, les prophètes. Mais ce matin, je veux m'arrêter sur Paul, la vision de Paul. d'annoncer Christ. Quand Paul se trouva devant le roi Agrippa, nous trouvons ce récit dans Actes 26, verset 19, il put répondre au roi, « Je n'ai point résisté à la vision céleste, malgré tout ce que j'ai fait subir aux autres. Lorsque j'ai eu cette vision de Christ, m'interpellant, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu désobéir. J'ai gardé constamment devant moi, devant mes yeux et dans mon cœur, cet appel si pressant, cette interpellation si puissante. » Dans quel état est ta vision ce matin? Est-elle toujours intacte? Ou, comme Paul, des rois se sont présentés devant toi, t'ont accusé, t'ont condamné? Tu me diras peut-être, oui, mais Paul, il a entendu la voix de Jésus distinctement. Du coup, sa vision a été intacte. C'est vrai, Paul a entendu Jésus distinctement. Mais toi aussi, tu l'as rencontré sur la route de la perdition. N'est-il pas venu frapper à ta porte pour te dire combien il t'aimait? Et si ce n'est pas le cas ce matin, je prie Dieu qu'il touche ton cœur. Alors dans la Bible, nous trouvons aussi « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux toi qui n'as pas vu Jésus, mais qui a cru. » Paul, à cause de cette vision, a été persécuté, nous l'avons vu, menacé de mort, mais sa vision est restée intacte. Est-ce que, comme Paul, serais-tu prêt à perdre ta vie pour la vision que Dieu a placée dans ton cœur? Parce qu'il faut que tu sois prêt à perdre ta vie pour rester dans la vision. Dans Matthieu 16, verset 24, nous trouvons « Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Actes 26, verset 16, « Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. » Alors, es-tu toujours debout ? Prêt à parler de lui. Ce verset est pour toi ce matin. Ne te dis pas qu'il est pour ton voisin, parce que peut-être que ton voisin dit la même chose. Peut-être que tu te trouves trop timide. Moi aussi, je suis timide. Mais je refuse que ma timidité m'empêche d'annoncer le royaume de Dieu. Car la Bible nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a des jours, je ne sais pas pour vous, mais il y a des jours où je suis rempli de la présence de Dieu. Il y a des jours où je sens vraiment la présence de Dieu dans ma vie et je suis heureux, je crie de joie et je me couche, je donne gloire à Dieu. Et il y a des matins où je me lève, c'est complètement différent. Et je me dis, mais Seigneur, je n'y arriverai pas, aide-moi. Ce que tu m'as mis à cœur n'est pas possible, je ne comprends pas. Et là, quand je me dis ça, il y a une petite voix qui retentit en moi, qui dit, oui, c'est normal, ce n'est pas de tes propres forces. Ce n'est pas de tes propres forces, c'est moi en toi. Tu as besoin de me laisser prendre toute la place dans ta vie. Alors ne regardons pas à ce que nous sommes aujourd'hui, mais plutôt à ce que Dieu souhaite faire de nous. Quand je regarde ce que Dieu a mis dans mon cœur, ma vision personnelle, je me dis que ce n'est pas possible. Et beaucoup d'entre nous ont une vision, un appel que Dieu a déposé dans le cœur et disent « c'est pas possible ». Parce que ce que tu vois, ce que Dieu t'a montré, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Dieu ne nous appelle pas tous à devenir des pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Dieu t'a peut-être mis à cœur de faire des études pour devenir médecin, avocat. Peut-être que tu travailles dans un commerce, dans une maison de retraite, à l'hôpital, que sais-je encore. Le plus important ne sera pas forcément le lieu, bien que plus tu seras en relation avec le monde et plus tu auras la possibilité d'avoir un impact dans la vie des gens. Mais quel que soit le lieu où Dieu t'a placé, il t'a placé pour un but bien précis. C'est que tu manifestes sa gloire. Là où tu te trouves, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ta commune, que tu manifestes sa gloire, pour que tu sois un témoin vivant. Que lorsque les gens te regardent, qu'ils se disent « Celui-ci a quelque chose que je n'ai pas. Celui-ci est différent des autres. » Là où Dieu t'a placé, c'est ce que j'appelle la vision spécifique de Dieu pour ta vie. C'est peut-être quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose pour toi, à tes yeux, impossible à réaliser, et pourtant qui résonne dans ton cœur comme quelque chose que tu ne peux pas éviter. Et Dieu cherche des cœurs qui disent « Moi, je ne me sens pas capable. Comment cette vision peut être possible ?» Dieu cherche des cœurs comme cela. Je ne me sens pas capable. Et c'est avec ce genre de cœur que Dieu peut faire des choses. Il y aura tout un processus, tout un travail qui se mettra en marche. Ton caractère va être brisé. Dieu éprouvera aussi ta fidélité. Il te donnera au départ des petites choses, petit à petit, comme quelqu'un qui monte un étage, marche par marche. Si tu as reçu un appel pour enseigner, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça que tu pourras enseigner. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La vision est vitale. La vision que Dieu a placée dans notre esprit est vitale. Elle doit nous hanter. Tu dois te lever le matin avec cette vision. Tu dois aller au travail avec cette vision. Tu dois travailler avec cette vision. Tu dois manger avec cette vision. Tu dois partir en vacances avec cette vision. Tu dois te coucher avec cette vision. Si cette vision est ancrée en toi et qu'elle fait partie intégrante de ta vie, tu ne devrais plus avoir de tracas, d'inquiétudes, parce que la vision te donnera une stabilité dans la vie de tous les jours. Quand nous attendions notre quatrième enfant, avec ma femme, les médecins se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal chez mon futur fils. Alors, aujourd'hui, avec la technologie, elle a passé une échographie, et c'est là qu'ils se sont aperçus que mon fils n'avait qu'un rein. C'est pas très grave, un rein. Beaucoup vivent avec un rein. Mais ils se sont aperçus aussi qu'il avait un chromosome différent des autres enfants. Et avant que je sache cela, Dieu m'avait donné une vision, une nuit. Et dans cette vision, je voyais deux hommes derrière une chaire. Et l'un de ces deux hommes, c'était moi. Et le deuxième, j'ai posé la question à Dieu dans mon rêve. J'ai dit, qui est ce deuxième homme? Et Dieu m'a répondu, c'est ton fils qui annonce ma parole. Et je peux vous dire que lorsque vous recevez une parole comme ça, on pourra vous dire bien des choses sur votre enfant. Les médecins ont confessé des choses, qu'il aurait du mal à tenir son crayon, qu'il aurait du mal peut-être à marcher. Mais quand vous avez cette vision, vous ne regardez que cette vision. Alors c'est vrai qu'au départ, on avait, avec ma femme, refusé que notre enfant soit différent des autres. Et pourtant les maîtresses nous disaient que Aaron n'évoluait pas comme les autres enfants. Mais nous ne voulions pas reconnaître qu'il était différent des autres, surtout moi. Mais nous, on ne pouvait pas le nier. Les faits étaient là, c'est vrai qu'il n'avançait pas comme les autres. Il a marché tard, il a eu du mal à parler. Alors, Dieu ne nous avait pas donné cette vision pour que nous fermions les yeux sur son handicap, mais plutôt pour nous dire de ne pas nous inquiéter pour son parcours. Et c'est ça qu'il fallait comprendre dans cette vision. Qu'il fallait que, quoi qu'il arrive, regarder à la vision. Peu importe, les médecins vous diront peut-être des choses. Peut-être que ce seront des chrétiens qui vous diront des choses. Ouais, ta vision, c'est pas ça, c'est pas possible. Et pour mon fils, pour mes enfants, chaque jour, nous confessons de bonnes choses sur leur vie. Et je vous encourage, vous parents, à le faire. Pour vos enfants. Souvent, je dis à mon fils, tu es un champion. C'est vrai qu'il a des difficultés, mais je le vois comme un champion. Et le père qui nous regarde ce matin vous dit aussi, vous êtes des champions. Vous êtes plus que vainqueurs. Quelles que soient vos difficultés, je les ai déjà vaincus. Amen. Alléluia. Alors, comme je le disais, il ne faut pas regarder aux difficultés, parce que ça, c'est le travail de Dieu, mais regarder à la promesse de Dieu. Je voudrais qu'on ouvre ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de Jérémie, au verset 1, Jérémie 1, 4, 10. Jérémie 1, 4 à 10. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. Alors il faut que tu regardes ce matin à la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Et ne dis pas comme Jérémie, « Mais je ne suis qu'un enfant, parce que Dieu sait qui tu es, il connaît tes difficultés. » Je dirais même qu'il te connaît plus que toi-même. Mais il a la solution pour t'en sortir. Parce qu'il est la solution. Il est la solution pour ta vie. Beaucoup de chrétiens essayent de faire les choses par eux-mêmes, comme nous l'avons vu. Et ils abandonnent très vite parce que c'est trop difficile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a jamais dit que c'est par nos propres forces, mais par son esprit. Et c'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 22, verset 14, car qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, car beaucoup ne se sentaient pas capables de réaliser la vision parce qu'ils regardaient à eux-mêmes. Alors ce matin, je t'encourage à ne pas regarder à toi-même. Ne regarde pas à toi-même. Nous devons regarder à Christ seul, pour connaître sa vision pour notre vie, sa volonté pour notre vie, et recevoir sa direction. Un dernier verset ce matin, dans Exode 4, 10 à 12. Exode 4, 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Amen. Nous voyons là Moïse qui a une promesse. Il a une vision que Dieu lui a donnée. Mais Moïse a fait comme beaucoup d'entre nous, il a regardé aux circonstances de sa vie. Et là, plus précisément, de sa chair. Je pense qu'il devait bégayer. Alors, malgré la promesse de Dieu, il n'a pas écouté Dieu. Résultat, Moïse dut accepter Aaron comme porte-parole. Moïse croyait que Aaron l'aiderait, mais il se révéla être plus tard une entrave plutôt qu'une aide, en ce qu'il entraîna le peuple dans le culte du veau d'or. Alors, Moïse aurait dû obéir à l'Éternel avec confiance. Et je vous encourage ce matin à le faire. Si Dieu te donne une vision, il te donnera aussi le pouvoir de l'accomplir. Ça, c'est une vérité biblique. S'il te donne une vision, il te donnera aussi le pouvoir de l'accomplir. Alors, vous devez faire la vision de Dieu une priorité pour votre vie, une priorité. Ayez constamment les yeux fixés sur Jésus et votre vision. L'un ne va pas sans l'autre, votre vision pour Jésus. La vision sera toujours au service de Jésus. Elle sera toujours inspirée par le Saint-Esprit. La vision vous donnera un objectif à atteindre dans votre vie. C'est un peu comparable comme un objectif dans votre carrière professionnelle. Chaque jour, vous allez au travail et vous avez un objectif, peut-être de devenir responsable, d'aller plus haut. Et chaque jour, vous travaillez pour cela. La vision vous donnera un objectif à atteindre dans votre vie. Si vous recevez une vision, ne restez pas, comme je l'ai dit en introduction, avec cette vision dans le cœur qui, si vous ne l'entretenez pas, s'éteindra peu à peu. Il y aura parfois des choses à faire, des choix à faire. Peut-être que cette vision, ou tout simplement le fait que vous soyez chrétien, des amis autour de vous vous ont découragé. Peut-être que c'est même la famille, un membre de votre famille, qui vous a peut-être un jour demandé de choisir entre Dieu ou elle. Nous avons tous des choix à faire dans notre vie. Nous avons les cartes entre nos mains, c'est à nous de choisir. La vision nous amènera à dépendre de lui en tout temps, dans chaque occasion, chaque circonstance de la vie. Dépendre de lui en tout temps. La vision vous donnera une sécurité spirituelle, quoi que les gens diront. Si cette vision est réelle et qu'elle brûle en vous, que ce soit dans votre famille ou même parfois des chrétiens, si c'est ce que vous avez dans le cœur, personne n'éteindra. La vision forgera votre caractère, elle ne vous poussera jamais à vous sentir au-dessus des autres, bien au contraire, mais doux, humble de cœur et compatissant, aimant pour ceux qui sont faibles et sans force. C'est ce que vous donnera la vision, jamais au-dessus des autres. Jésus, qui est notre exemple parfait ce matin, avait la vision de la croix, avait la vision de votre âme ce matin. Et une fois la vision accomplie, il a dit « Tout est accompli ». Avoir une vision plaît au Père et il faudra y mettre tout son cœur. Dans 2 Chroniques 16, 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.